BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange et Laurent Valdiguier.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir et de partager cette heure avec vous. L'affaire de la semaine qui est résumée quasiment en une seule question. Qu'est-il arrivé à Agathe Hilleret 10 jours après la disparition de la joggeuse de 28 ans à Vivonne dans la Vienne? La question reste posée. Les recherches ont été stoppées. Jeudi, après un dernier ratissage, disparition volontaire, accident, mauvaise rencontre, une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration est désormais ouverte. Pierre-Louis Bousset.
À la une de la presse locale dans ce bar-tabac de Vivonne, un nom, un mystère, et pour les habitants, beaucoup d'émotions.
Je suis touchée parce que on se met à la place de la famille. Je vous dis, nous aussi, on a des enfants, des petits-enfants.
Est-ce qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est décédée? On ne sait pas.
Des jours durant, les gendarmes ont fouillé, quadrillé, ratissé les champs et les bois aux alentours de Vivonne, à la recherche d'Agathe Hilleret, une joggeuse de 28 ans. Partie du domicile de son père le 10 avril pour faire son footing, elle n'est jamais revenue à la maison, n'a plus donné de nouvelles depuis. Habituée à courir sur des distances de 10 voire 20 km, Agathe connaît bien ses forêts, ses sentiers de terre qu'elle a souvent parcourus. Une zone parfois mal fréquentée, selon Didier, qui la traverse souvent à VTT.
Qu'il y en a beaucoup qui viennent là, sur des motocross, donc voilà... Et quand vous tombez sur un groupe, vous vous sentez tout seul, vous n'êtes pas en sécurité. Et moi, je conseille, pour tous les sportifs qui roulent là, de ne pas le faire tout seul.
Une question taraude les enquêteurs depuis. Qu'est-il arrivé à Agathe? En plus de l'hypothèse de la mauvaise rencontre, d'autres pistes ont été étudiées. Cette jeune femme décrite comme fragile et réservée aurait-elle choisi de fuir volontairement? Elle avait en tout cas prévu de se rendre à une fête d'anniversaire quelques jours après sa disparition. Aurait-elle fait un malaise ou chuté lors de sa course? Les gendarmes ont déjà passé la zone au peigne fin. Des battues ont été organisées. Un hélicoptère ainsi que des plongeurs ont été mobilisés. En vain. Des fouilles de terrain qui ont pris fin jeudi dernier. Une vingtaine d'enquêteurs poursuit les investigations pour espérer lever le mystère.
Voilà, le décor est planté. Laurent Valdiguier, nous allons installer et accueillir ensemble Bernard Boulou. Bonjour. Vous installez en direct, just in time, comme on dit en anglais. Merci d'être sur le plateau d'affaires suivantes. Vous êtes avocat spécialiste des affaires de disparition. À vos côtés, Johanna Rosenblum. Bonjour Johanna.
Bonjour Ronald.
Psychologue clinicienne et consultante BFM TV. Pour terminer les présentations, Jacques-Charles Fonbonne, bonjour. Général bonjour. De gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. Laurent, on dit souvent, dans une affaire de disparition, les 10 jours après, oui. On dit souvent les 48 premières heures, c'est l'essentiel, c'est là que tout joue. Après, on rentre dans une autre dimension.
Oui, c'est déterminant au début parce que vous savez, souvent, c'est les petites caméras de vidéo. Bernard Boulou qui a suivi l'affaire Le Landais se souvient de la caméra de la pharmacie qui avait permis dans la nuit d'identifier un petit corps, une petite robe blanche à l'avant de la voiture. Et c'est vrai que ces caméras de vidéosurveillance, que ce soit la boulangerie, la pharmacie ou autre, elles s'effacent en général tout les 24 heures ou les 48 heures. Donc pour ça, c'est très important de sécuriser ça. C'est très important, évidemment, les téléphones. Alors les téléphones, les enquêteurs, ils ont plus longtemps, ils ont un an pour les téléphones et les bornes. Mais c'est vrai que tout témoignage, même fugace, d'une voiture, d'une silhouette, etc., plutôt les gendarmes les recueillent, enfin les policiers, mieux c'est.
Bernard Boulou, sur ces premières heures qui sont souvent, pas forcément cruciales, mais qui sont essentielles et très importantes sur ces disparitions, comment vous expliquez et comment vous l'analysez?
Alors, Maurice Cusson, qui est un grand criminologue canadien, disait toujours que le temps, c'est l'ennemi de l'enquête. Hein. Donc, les 48
ça
premières
fait sourire
heures,
votre voisin, il faut
agir dans les 48 premières heures. Et Laurent Valdiguier le sait, je me bats pour ça, contre ça, même ce fameux délai de 48 heures qui est donné par certains enquêteurs. Attendez 48 heures, on verra ce qui se passe après. C'est faux. C'est dans les 48 premières heures qu'il faut récolter, comme le disait Laurent, le maximum d'éléments pour pouvoir ensuite s'en servir plus tard, comme on a fait pour Nordal Hollandais, le caporal noyé. On s'en est servi 7 mois après. Et là, au moins, c'est vite, tout de suite, les premiers jours qu'il faut agir.
Les vidéos, il y a aussi les témoignages. J'imagine que plus on est proche d'un événement, mieux on s'en souvient. On pourra poser la question.
Oui, absolument, mais c'est valable pour tous les éléments de l'enquête. Ouais. Si vous interrogez le soir même ou le lendemain des témoins, sachant déjà que la fiabilité du témoignage elle est extrêmement faible, vous avez une chance que les gens ne se trompent pas dans la chronologie. Puis autre chose aussi dans les 48 premières heures, c'est qu'on a une chance de retrouver la personne vivante, tout simplement. C'est-à-dire que ça peut être une chute, ça peut être un accident, elle est partie sans eau, elle est partie sans nourriture. 48 heures, on a une grosse chance. Ouais. À partir du moment où ces 48 heures sont passées, là, ça devient effectivement beaucoup plus difficile.
C'est vrai que les témoignages, c'est toujours quelque chose de compliqué à recueillir. Parce qu'on a toujours un biais de confirmation. Chacun veut avoir une réponse, chacun veut apporter de l'aide, chacun se sent aussi sous pression pour essayer d'apporter des éléments de compréhension. Et donc, on va avoir tendance, si la question est un petit peu suggestive, à aller dans le sens de l'interrogatoire. Et ça peut créer des confusions au moment de la récolte des interrogatoires et des différents témoignages.
C'est vrai qu'après l'arrestation de Lelandais, justement, il y avait eu les avocats, Maître Boulot et les autres, avaient récolté les disparus. On avait parlé des disparus des Alpes, il y avait une trentaine. Ce qui est stupéfiant, Ronald, c'est à quel point, et alors là, on est en plein là-dedans avec Agathe, les gens se volatilisent. Les gens se volatilisent comme une bulle de savon, il n'y a rien. Dans le cas d'Agathe, mon général, c'est un peu ce qui se passe.
Il n'y a absolument rien. Manifestement, il n'y a pas. Je crois qu'il y a eu 198 témoignages.
J'ai 178, je crois.
178, c'est bien, c'est possible. Ce qui est quand même tout à fait considérable, si on considère que c'est une ville de 4500 habitants, qu'elle va courir dans les bois, il n'y a pas énormément de monde, c'est pas la sortie des Galeries Lafayette. Aucune scène d'infraction, crime ou kidnapping. Manifestement, dans cette zone-là, encore moins de caméras vidéo. Et puis, son portable qui borne, mais finalement assez peu de temps après sa disparition.
C'est pas juste parce que ça pense, elle va courir, elle a son portable qui est sur son bras ou sur sa main.
Comme tous les gens qui courent pour avoir tous les éléments de la course.
Il borne, mais on le retrouve pas.
On ne le retrouve pas, et puis à un moment donné, fini d'émettre, ce qui veut dire qu'il a été démonté, qu'il a été cassé, qu'il a été jeté dans l'eau. Et il n'y a vraiment que ça, à part son profil psychologique, qui est un petit peu particulier, et qui pourrait, mais ça c'est plutôt la partie de Johanna, qui pourrait laisser à penser qu'au-delà d'une chute, au-delà d'un enlèvement, ça peut être la volonté de disparaître, la volonté de se faire du mal. Peut-être à ce moment-là, de prendre un itinéraire justement pour ne pas être retrouvée, qui soit complètement différent de celui dans lequel elle court d'habitude, et ce qui expliquerait que les recherches, malgré une ampleur rarement vue, n'ont rien donné.
Alors, c'est vrai que le téléphone, ça sera important. Ils ne l'ont pas tout de suite, ça, mais c'est une indication qu'ils ont grâce aux fabricants, c'est comment le téléphone s'est éteint. Dans le cas de Michel Pial, qui a été soupçonné d'avoir tué sa femme, souvenez-vous, pendant 3 mois, il avait le téléphone de sa femme en main. Et les enquêteurs avaient pu établir qu'il l'avait éteint, que ce téléphone s'allumait et s'éteignait grâce à Siri, l'application.
Siri, c'est quand on parle à son téléphone.
Voilà, parce qu'il ne savait pas l'éteindre par le système lui-même. Et ça avait donné une indication. Mais alors, ça prend du temps parce que c'est le fabricant qui a ça. Mais ça, c'est une indication importante sur la façon dont le téléphone est éteint.
Il y a aussi les applications sur les téléphones qu'il faut. Exploiter, ouais, je suppose que les gendarmes.
Quel type d'application messagerie ou
application santé, par exemple, d'accord. Où vous calculez le nombre de pas.
Bien sûr.
C'est ça, exactement. Donc ça, c'est l'application Strava, Nike pour les gens qui courent un peu comme moi. donc on a tous une application, mais l'application santé avec le nombre de pas, c'est quelque chose de très important. On s'en était servi d'ailleurs dans l'affaire Lelandais, encore une fois.
Johanna, j'ai évidemment pas voulu donner une solution, mais la piste du suicide est évoquée. Elle n'est pas écartée, elle n'est pas privilégiée. On parlait d'une forme de faiblesse psychologique. Mais quand on est joggeuse, partir pour mettre fin à ses jours sur le parcours que l'on emprunte tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui audible, compréhensible, crédible comme argument?
Le scénario de la femme joggeuse qui part courir et qui disparaît, malheureusement, on a l'habitude de ce scénario-là. Et en général, c'est pas des femmes qui partent se suicider. Mmh. Hein. Mais alors, faut aussi rappeler que on a le droit de disparaître. Hein. Quand on est majeur, on a le droit de disparaître. Ça s'appelle le droit à l'oubli, de pas donner de nouvelles. Il y a cela aussi. Et puis il y a son profil psychologique. Je crois que cette jeune femme est atteinte d'anorexie mentale. C'est un trouble du comportement alimentaire qui est sévère. Ça rajoute à sa vulnérabilité, déjà à sa vulnérabilité physique, parce qu'elle est extrêmement légère, donc elle est certainement vulnérable plus qu'une autre à une chute, peut-être plus fragile, à un étourdissement, je ne sais quoi. Et puis ça fait psychiquement, évidemment, d'elle une femme plus fragile psychologiquement, avec des souffrances mentales, peut-être des symptômes dépressifs aussi. Et là, il faudrait pouvoir se tourner vers son dossier médical, si elle est suivie, vers ses proches, qui peut-être l'aider dans son parcours de soins et qui pourraient apporter des éléments de compréhension.
Pourquoi on s'inquiète s'inquiète aujourd'hui? Quels sont les éléments qui font qu'on s'inquiète? Au-delà de la disparition en tant que telle, parce que
alors au-delà de la disparition, je dirais qu'il y a un fait social, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le mystère demeure, on est en plus dans une petite ville, les gens s'inquiètent. Si elle a été kidnappée, si elle a été agressée ou tuée, ça veut dire qu'il y a un furieux qui se promène dans les environs, qui est toujours en liberté, qui est susceptible de recommencer. Et on a besoin, toutes les sociétés à travers l'histoire ont toujours besoin d'une solution et d'être rassurées par une solution judiciaire. Je dirais à la limite, même si elle n'est pas complètement dans la vérité chronologique et d'actualité, on a besoin d'avoir une explication, on a besoin d'arrêter quelqu'un ou on a besoin de la retrouver de façon à refermer, je dirais, le dossier de l'inquiétude collective.
Ça fait penser à l'affaire de Lina, souvenez-vous, où elle avait disparu sur le chemin du train.
C'est ça.
Mais les chiens Saint-Hubert avaient marqué un arrêt. Oui. Vous savez à peu près à quel endroit. Oui. Là, on n'a pas d'indication de chien.
Et c'est d'autant plus insupportable, c'est ce que vous disiez, Laurent, à l'instant. Oui. C'est-à-dire, que s'est-il passé? Il n'y a aucune piste qui puisse rassurer tout le monde au-delà de la résolution de l'enquête.
Mais en somme, ce que disait Jolla Bernabou, c'est « moi je cours ». C'est-à-dire qu'on se dit, on se met dans la situation. Il y a 11 très bon article de Thibaut Chevillard dans 20 minutes. 11 joggeuses tuées entre 2005 et 2017. Celles et ceux qui courent, notamment donc les femmes qui courent, se disent mais je suis en danger, si je vais en forêt, si je vais tard, en hiver, il fait nuit à 16h, il fait nuit jusqu'à 10h du matin. Il y a aussi cela qu'il faut prendre en compte à la fois dont on mène l'enquête et la psyché collective.
Oui, mais je suis même... oui. On y pense toutes quand on va courir tôt le matin, courir tard le soir ou dans des endroits un petit peu isolés. Évidemment, aujourd'hui, on pense toutes à toutes ces histoires, à toutes ces disparitions, à toutes ces femmes qui ont connu le pire parce qu'elles sont parties courir seules. Donc, on a peur d'un scénario qui se répète encore et encore. On se demande pourquoi cette jeune fille se sentait en capacité, alors qu'elle-même, un petit peu fragile physiquement, voire psychologiquement, va courir tous les jours. Ouais, c'est des vraies questions.
Catégorie de joggeuse dans les affaires de disparition, c'est une vraie catégorie, pardon pour le mais c'est une vraie un vrai profil de victime potentielle que l'on étudie différemment quand il y a disparition.
Un vrai, je sais pas. C'est vrai que ça se répète assez souvent. Hein, je dirais pas régulièrement, mais c'est vrai que c'est un profil. J'allais dire intéressant pour certains ravisseurs de l'intérêt, prédateurs.
C'est tellement un profil que, souvenez-vous, Jonathan Daval, qui avait tué sa femme et qui avait fait une mise en scène pour faire croire qu'elle avait été tuée par un prédateur en faisant son jogging.
Parce qu'elle ne revenait plus tard. Il s'est dit, finalement, elle met une heure, elle est au bout d'une heure et demie, deux heures ou trois heures, elle n'est pas là.
Voilà. Donc, il avait fait croire aux enquêteurs qu'on était dans ce schéma criminel.
Emmenez-nous, Général, notamment dans ces forêts, il y a brigades cynophiles, il y a eu des plongeurs, il y a eu un dispositif extrêmement important. Pendant 7 jours, il y a près de 200 gendarmes, sapeurs-pompiers militaires.
Des drones. Il y a eu des gens du RICM, des troupes de marine qui se trouvaient à côté, comme vous l'avez dit, les plongeurs. Certainement et obligatoirement les gens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie au cas où. Et puis les gendarmes que l'on a vus en treillis, c'est un escadron de gendarmerie mobile qui a été mis en renfort. Un escadron de gendarmerie mobile en déplacement, c'est 85 militaires. Ça permet donc d'avoir des vagues de ratissage qui soient faites de façon disciplinée, hein, parce que il y a souvent des gens qui veulent
les battus civiques.
Voilà, les battus citoyens. Évidemment, c'est bien parce que ça permet d'avoir du monde. On parlait d'une zone de 100 km2. C'est la surface de Paris. C'est absolument gigantesque. Et puis, c'est pas la place de la Concorde, hein. C'est-à-dire que le terrain est
on voit derrière vous ce chemin qu'elle emprunte.
Voilà, le terrain est très, très inégal et avec beaucoup de végétation. Mais il faut que ce soit fait de façon absolument méthodique. C'est-à-dire que vous avez un officier qui va quadriller le terrain carré par carré. On va prendre le nombre de gendarmes nécessaires pour qu'il y en ait un tous les 2 ou 3 ou 5 mètres si le terrain est dégagé. Et puis, on coche la case, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, dans un sens et retour, on sait qu'on l'a fait et on passe à côté.
Oui, il faut partir du principe que la nature rend toujours les corps. Un corps qui est, on va dire, bien dissimulé, ressortira toujours, souvent, peut-être pas entièrement, mais par fragments, notamment par l'intervention des animaux sauvages qui vont transporter un bout de corps à tel endroit, et on retrouvera dans quelques mois, quelques semaines, d'où l'intervention des chiens, notamment renifleurs.
Des chiens de cadavres.
Cadavres, etc.
Ça renvoie à la découverte d'une partie du crâne du petit Émile, parce qu'on savait qu'il avait été déposé, on a découvert qu'il a été déposé à un endroit, mais pas celui forcément qui a été retrouvé, mais que le rôle de ce qu'on appelle les ravines, c'est-à-dire ces espèces de coulées naturelles avec la pluie, ont sans doute été importantes.
Ou du caporal noyé, que les Landais avaient déposé dans un fossé et qui, en fait, le crâne a fini par rouler parce que c'est toujours le crâne qui se détache.
Ou un chariot,
le retour d'expérience des gendarmes du Petit Émile, c'est justement que pour éviter les battues désordonnées, disons, ou en tout cas, faire en sorte qu'on sache très précisément quelle zone a été fouillée par qui. Alors là, ils sont en train de développer, l'IRCGN et le général Daoust, ils sont en train de développer des drones couplés à des cartes pour permettre très précisément de savoir où on fouille. Parce qu'en réalité, souvent, tout le monde fouille, tout le monde cherche.
Ouais, oui.
Et c'est après, une on ne sait pas donc, les zones exactement. Donc là, c'est
une démarche scientifique, en fait. C'est-à-dire qu'on avance lentement s'il le faut, mais on ne revient pas. On a fermé la piste, a fermé la porte.
Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 48 premières heures dont on disait au début de cette émission qu'elles étaient importantes et qu'est-ce qu'on fait désormais parce que les opérations de ratissage, elles ont été arrêtées jeudi soir. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Alors, deux branches d'activité, deux actions complètement différentes dans les 48 premières heures ou au moins pendant le temps où ont duré les investigations sur le terrain. La recherche de la personne vivante, la recherche éventuellement de son corps dans la zone la plus probable, un petit peu moins probable, et puis ensuite avec une zone élargie. Pendant ce temps-là, évidemment, la section des recherches de Poitiers qui a été saisie, alors c'est pas les gens qu'on voit sur le terrain, ce sont des officiers de police judiciaire, on va en section de recherche quand on a 10, 15 ans de police judiciaire derrière soi dans la gendarmerie, c'est l'embarquement de toutes les données, ce que l'on disait, les vidéos, les péages, les retraits de cartes bleues, c'est les témoignages évidemment sur le terrain, c'est l'environnement de la personne, ses amis, sa famille, son code Facebook, ses différents comptes, son ordinateur, éventuellement un jour à l'intime, alors qui est plus sur un carnet, mais qui peut être également sur l'ordinateur. Et à ce moment-là, le commandant de la section de recherche va mettre une équipe sur chacune des hypothèses, avec une équipe technique transverse sur la police technique. Là, il n'y en a pas. Sur la téléphonie, sur tous les éléments qui peuvent nourrir l'enquête, et notamment sur ce que l'on appelle l'anacrime, c'est-à-dire l'analyse criminelle, qui permet dans les affaires qui sont complexes, soit par un grand nombre d'intervenants des réseaux, par exemple des réseaux criminels, ou par un grand nombre de témoignages, d'engranger en quelque sorte, mais de façon automatique, l'ensemble des éléments. Je vous donne un exemple très rapide. Vous avez quelqu'un qui dit « j'ai vu Monsieur X à tel endroit, à telle heure ». Un autre témoin, mais éventuellement 10 ans après, va vous dire « j'ai vu telle voiture, qui est la voiture de Monsieur X, pardon, mais le même jour, à 300 km de là ». Automatiquement, la machine va vous sortir soit la correspondance, si ça s'ajoute, soit l'incohérence, si ça se contredit.
On a le sentiment, peut-être que je résume, mais je veux votre analyse, que parfois il n'y a pas assez d'informations, parfois il y a trop d'informations, et que dans les deux cas, qui sont totalement opposés, ça complique forcément la tâche des enquêteurs. Est-ce que c'est le cas ou pas?
Oui, le trop d'informations tue l'information. Pas assez, ma foi, c'est vrai que... voilà. Après, tout va dépendre de la manière dont les enquêteurs vont travailler. Et les magistrats. On a connu ça, et on en revient encore à cette affaire, le Landais, il y a quelques années. À 60 km d'écart, on avait deux juges d'instruction, un à Chambéry, un à Grenoble, et les informations ne croisaient pas. Ouais. Et il a fallu à un moment que par hasard, quelqu'un dise « mais vous cherchez une Audi A3, il y en a une à Grenoble ». Et c'est comme ça que c'est parti.
C'est ça.
Voilà. Maintenant, ça s'améliore. Les enquêteurs travaillent, sont mieux formés, les magistrats sont un peu plus sensibilisés à ça, mais il y a encore des dysfonctionnements, et je le constate régulièrement.
Mais il y a des outils, normalement. Encore faut-il qu'ils soient alimentés correctement.
Après, c'est vrai qu'il y a toujours, dans un second temps, la piste familiale, et en tout cas, toutes les relations passées des disparus qui sont fouillées. C'est pas toujours facile pour les gens, pour les familles et les victimes, de voir les enquêteurs éplucher leur vie à la recherche d'un éventuel, une éventuelle piste.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces enquêtes-là, le coût importe peu.
Oui.
C'est la vérité qui compte.
C'est la vérité qui compte. Quand un enquêteur ou un magistrat vient dire « ça coûte trop cher, je ne le fais pas », c'est scandaleux et ça doit se combattre, et c'est ce que l'on fait régulièrement.
Mais ce qui n'est pas, par exemple, pardon, je vous ai dit, mais ce qui n'est pas du tout la démarche des anglo-saxons. Mm-hmm. La police anglaise, les polices américaines ont des ABAC, c'est-à-dire qu'ils ont une grille. J'ai un témoin, une croix. J'ai deux témoins, deux croix. J'ai un élément de police technique, de l'ADN, du sang. On fait le total et on a 43% des éléments nécessaires à la résolution de l'enquête, on y va. On a 39%, on n'y va pas. quelle que soit la gravité, quel que soit l'émoi dans la société. C'est une démarche qui est pas une démarche latine, hein, qui est complètement différente de notre culture, comme vous le disiez, maître, et de la façon de travailler des magistrats.
En espérant que cette démarche latine permettra de retrouver Agathe Hidéret, ou en tout cas de savoir ce qui s'est passé. Merci beaucoup, messieurs.